7h30, vous êtes de retour dans votre set avec Éric Laverdure en espérant que ça va toujours bien. Nous, ben aujourd'hui, ben on a la chance de recevoir David Pavot, professeur titulaire de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport et vice-président de la Société québécoise de droit international de l'Université de Sherbrooke. Bon matin, Monsieur Pavot.
Bonjour.
Et ben on va parler avec vous aujourd'hui pour parler de ce boycott diplomatique du Canada des Jeux olympiques de Pékin. Hein, c'est sûrement un sujet sur lequel vous devez échanger pas mal ces temps-ci, Monsieur Pavot. Alors, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi, le 8 décembre dernier, que le Canada procéderait à un boycottage diplomatique des Jeux olympiques de Pékin. Il ne s'agit pas d'empêcher les athlètes de performer. Qu'est-ce qu'on veut dire par un boycottage diplomatique, Monsieur Pavot?
Ben, tout simplement, c'est le non-envoi par le Canada de représentants officiels, c'est-à-dire de diplomates ou de ministres lors des Jeux olympiques.
Est-ce que c'est quelque chose qui a un impact très fort lors des Jeux olympiques, cette délégation diplomatique-là? Oui, pour faire des poignées de main, pour rencontrer des gens, mais est-ce que au final, ça a un énorme impact, ce type de boycottage-là?
Alors, d'un point de vue diplomatique, oui, ça a quand même un impact, puisque c'est un énorme affront qui est fait à la Chine. Ça a un impact symbolique en fait sur le fait que pourquoi est-ce qu'on fait ce boycottage diplomatique en raison des violations massives des droits de la personne en Chine et notamment des accusations de génocide à l'encontre du gouvernement chinois en ce qui concerne le cas des Ouïghours. Alors est-ce que ça changera le cas des Ouïghours? Non. Est-ce que ça changera la phase des Jeux? Non plus. Mais est-ce que ça démontre qu'on met notre point sur la table? Bah oui, en quelque sorte.
Et bien justement, le Canada n'est pas le premier pays à réagir. En fait, il est le quatrième actuellement, mais trois ou quatrième pays actuellement. Est-ce que vous trouvez que le Canada agit en retard? Quelle est votre vision en fait dans le processus d'arriver à ce boycottage-là?
Mais ça fait un an et demi qu'on a un député au fédéral, Alexis Duceppe, qui tire la sonnette d'alarme. Ça fait un an et demi qu'il se passe rien. Et puis, il a fallu que... les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande disent on fait un boycottage diplomatique, entre guillemets, que papa et maman parlent pour que nous on dise quelque chose. Alors que pour autant, on a un gouvernement qui s'affiche explicitement comme le champion des droits de la personne, un gouvernement progressiste, et j'ai comme envie de vous dire, il était plus que temps. Il était plus que temps. Et en miroir un petit peu le regret, c'est qu'on n'entend rien de la part du Comité olympique canadien, si ce n'est qu'ils sont ravis de la décision parce qu'il faut laisser les athlètes compétitionner. On n'entend rien de la part des athlètes, si ce n'est le même discours. Or, on met dans la balance, d'un côté, un génocide, c'est-à-dire le crime des crimes, une population, les Ouïghours, qui est maltraitée, dont il y a finalement une extinction planifiée par Pékin, parce que, en raison de ses opinions politiques, cette extinction planifiée, elle se manifeste comment? C'est 10% de la population ouïghour aujourd'hui qui est dans des camps d'internement, c'est plus d'un million de personnes. C'est un programme de stérilisation forcée des femmes ouïghours. C'est aussi un programme de prélèvement d'organes sur les prisonniers politiques ouïghours mis en place par Pékin. Et de l'autre côté, on nous parle de sport, de gens qui veulent pousser une rondelle de hockey, qui veulent descendre sur une piste de bobsleigh. Dans les livres d'histoire aujourd'hui, lorsqu'on regarde les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, on se questionne sur la participation des athlètes aux Jeux Olympiques. Ouais. Est-ce que dans 20 ou 30 ans, un Michael Kingsbury ou on sera content qu'il y ait un Michael Kingsbury ou un Carey Price sur la première marche en train de se faire donner une médaille d'or, sur la première marche du podium, dans un livre d'histoire en disant que faisaient les athlètes canadiens à ce moment-là? Eh bien, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, je pense que c'est là que le signal doit venir et il ne vient pas.
Et la Chine ont déjà accueilli des Jeux olympiques. En fait, on se rappelle des Jeux olympiques d'été 2008 à Beijing. Comment ça? Et pourtant, la situation des Ouïghours commençait déjà à être connue du restant du monde. Pourquoi c'est différent aujourd'hui en 2021 qu'en 2008? Quelle est la transition peut-être diplomatique qui s'est passée entre les deux olympiques?
Mais ce qui se passe entre les deux olympiques, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle les Xinjiang Papers, c'est-à-dire une sorte de Wikileaks relatif à ce qui se passe au Xinjiang, donc de la situation des Ouïghours. Donc on a beaucoup plus de documents. Okay. Il y a certains rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui se sont saisis de la question. Et j'ai comme envie de vous dire, il y a aussi une prise de conscience de l'opinion publique à l'effet des Jeux Olympiques, en disant que il y a deux phénomènes, en fait, que les grands événements sportifs internationaux ont des cahiers des charges beaucoup trop élevés. Donc finalement, entre guillemets, il y a quasiment plus que des dictatures qui peuvent les organiser, comme la dictature qu'est la Chine. Mmh. Et de l'autre côté, il y a tout le contexte aussi qui entoure la Chine, c'est-à-dire les Chinois ont annoncé explicitement qu'en 2049, ils voulaient exercer leur emprise sur le monde ou leur leadership sur le monde. 2049, c'est les 100 ans de la République populaire de Chine. On a aussi derrière cela un discours de plus en plus agressif et de plus en plus agressif de la part de la République de Chine. On connaît le cas des Ouïghours, on en parle un peu, mais on a aussi tout ce qui est détention arbitraire avec les deux Michael. On a toutes les menaces à l'effet à l'encontre des États qui n'autoriseraient pas Huawei à rentrer sur la 5G. On a toutes les menaces expansionnistes en mer de Chine, les menaces qui sont de plus en plus explicites sur Taïwan. Et on a un État vraiment qui est en train de montrer les muscles. Et ce qu'on se rend compte, c'est que de l'autre côté, ben, il faut nous qu'on réagisse et nous, on a un devoir de réagir. Alors malheureusement, le concert des nations est pas tout à fait aligné puisque la France a annoncé ne pas faire de boycottage diplomatique. J'ai quand même envie de vous dire, il serait vraiment temps qu'on réagisse. Donc tous ces paramètres expliquent que 5 États aujourd'hui, les États des Five Eyes, tels qu'on les appelle, ce dont on parlait tantôt, eh bien, ouais, ont réagi à l'encontre de la Chine.
Ben, c'est un peu ma prochaine question, professeur Pavot. C'était pas surprenant que les premiers États à réagir, bon, l'Australie, les États-Unis, on sait d'ailleurs avec ce qui s'est passé, le pivot pacifique, il y a eu l'affaire avec la France, justement, sur les sous-marins nucléaires, avec le contrat avec l'Australie. Est-ce que c'est surprenant que la France veuille peut-être réaligner sa position avec l'Union européenne? Puis d'ailleurs, Emmanuel Macron qui parlait là, cette semaine du boycott diplomatique comme étant d'un geste petit et uniquement symbolique. Qu'est-ce que vous pensez de la position, dans un premier temps, d'Emmanuel Macron et de la France? Est-ce que vous pensez que l'Union européenne va arriver avec peut-être une proposition différente, du moins une posture diplomatique différente face à la Chine dans ce dossier-là?
Mais renvoyer à l'Union européenne cette prise de position, c'est se défausser sur une entité qui n'a pas la compétence de le faire. En matière de relations internationales, c'est un petit peu un écran de fumée qu'on envoie parce que c'est pas le rôle de l'Union européenne d'annoncer un boycottage des Olympiques. Au niveau des relations externes, sinon ça reste une compétence française. Donc dire il faut qu'on s'accorde avec Bruxelles avant de faire quelque chose, c'est complètement faux. C'est de la poudre aux yeux qu'on envoie à l'opinion publique. Le commentaire de dire qu'un boycottage diplomatique c'est petit, je vous l'ai dit en introduction, je suis entièrement d'accord. C'est un premier pas, mais c'est pas le seul pas qu'il faut faire. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut pas envoyer nos athlètes là-bas. J'ai envie de vous dire, on a une responsabilité sociale. Je veux dire, c'est grave ce qui se passe là. Je veux dire, alors oui, c'est l'apogée d'une carrière d'athlète. Mais si les athlètes les plus célèbres du monde, qui sont souvent les athlètes d'élite, se mettent à dire je n'y vais plus, que des comités olympiques le font. Les comités olympiques, c'est pas des États, hein, c'est des fédérations indépendantes. Eh bien, là, il risque de se passer quelque chose. Là, le monde risque de réagir. Parce que là, entre guillemets, c'est pas mal le plus loin que peuvent aller nos gouvernements. Donc, la position de Macron, est-ce qu'on peut attendre autre chose de l'Europe? C'est un petit peu particulier, en fait. C'est un petit peu paradoxal. L'analyse est un petit peu floue. Parce que d'un côté, l'Union européenne a adopté des sanctions économiques à l'égard de la Chine pour ce qui se passe au Xinjiang. Mais de l'autre côté, le boycott quelconque des Jeux Olympiques n'est pas de compétence européenne, n'est pas de compétence de l'Union. Ça demeure une compétence des États. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que les Européens vont se coordonner pour prendre une réaction? Ben, on peut le souhaiter. Maintenant, c'est extrêmement difficile et la ligne n'est pas encore bien bien tracée sur ce qui va sortir de la part des Européens.
Et cette pression-là, pour moi, peut-être qu'Éric aura une dernière question pour vous. Moi, c'est ma dernière question. Est-ce que, d'emblée, vous l'avez dit, ça n'aura pas nécessairement d'effet sur la situation des Ouïghours, ou du moins l'approche de la Chine par rapport aux droits humains? Est-ce que vous pensez que cette pression diplomatique-là pourrait amener le CIO à modifier ses pratiques dans un avenir assez rapproché?
Ben, il serait plus que temps que l'on arrête d'octroyer des jeux à des pays problématiques au niveau des droits humains. On a eu Sochi en Russie dernièrement. Le Comité international olympique a déjà modifié quelque peu ses pratiques puisque dans le contrat des prochains Jeux olympiques d'été de Paris en 2024, pour la première fois, on a une clause de respect des droits de la personne. Or, lorsqu'on analyse cette clause d'un point de vue juridique, on se demande quelle peut être son effectivité ou quels peuvent être les moyens du CIO d'octroyer des jeux. Faut le rappeler, le Comité international olympique, c'est une OBNL privée, là, c'est pas les Nations Unies. Donc à la fois ils ont plus de flexibilité, mais ils ont moins d'obligations de transparence. Donc c'est un petit peu paradoxal. Est-ce que de plus en plus il y a de la pression pour que les mécanismes d'octroi des jeux et notamment le respect des droits humains soient garantis? Absolument. Mais on s'inquiète quand même lorsqu'on voit que certains pays, bon, pour les prochains Jeux Olympiques, c'est balisé, ils sont octroyés. Donc, on parle des Jeux Olympiques d'été, on parle de la France, des États-Unis, de l'Australie, on parle quand même de pays qui respecte globalement les droits humains, même s'il y a, il y a quelques petits problèmes, on ne parle pas de génocide. Mais pour 2036, on nous annonce une candidature de Saint-Pétersbourg. Et je peux vous dire que quand on voit la Russie de Poutine, ça fait un petit peu froid dans le dos. Et il n'y a pas encore de clause d'exclusion explicite des pays qui commettent des violations massives des droits humains. Donc c'est, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en cours au niveau du Comité international olympique. Est-ce qu'on en est à un changement de politique? J'ai comme envie de vous dire, qui vivra verra. Et puis personnellement, je ne crois que ce que je vois. Donc je serai pris dans la tête.
Et une dernière question de mon côté, Monsieur Pavot, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des risques pour les athlètes qui décident de se rendre en Chine pour justement participer à ces Jeux? Je sais qu'on a eu quelques situations un peu anormales du côté des derniers Jeux olympiques d'hiver avec des ressortissants qui essayaient de vouloir rester au Japon, oui, ou en Corée, bref, je me trompe peut-être. Mais est-ce qu'on s'inquiète pour la sécurité des athlètes qui vont être présents sur les lieux en Chine en 2022?
J'aurais pas vraiment, à ce stade, j'aurais pas vraiment d'indicateur relatif à de la non-sécurité des athlètes. Pour le moment, il semble, il n'y a pas de menace particulière de la part du gouvernement chinois. On n'est jamais à l'abri de rien, hein. On l'a vu avec le cas des deux Michael. C'est un pays aujourd'hui qui a peur de rien.
Mais en même temps, c'est un peu ce que j'allais dire, effectivement. Si on fait lien avec les deux Michael, ce serait quand même pas, puis je suis pas dans la tête évidemment des dirigeants chinois, mais ce serait quand même pas l'avantage des dirigeants chinois de, par exemple, faire des arrestations pour des raisons diplomatiques d'athlètes qui proviennent des États-Unis ou du Canada. Habituellement, on parle pas de safe space non plus, les JO, mais ce serait pas bien vu, là. Ce serait rajouter un peu l'insulte à l'injure, là.
Ouais.
Il y a deux choses à prendre en compte. C'est que les Jeux Olympiques, c'est l'événement le plus télévisuel, le plus regardé au monde. Donc, si c'est certain que s'il y a des arrestations forcées, des arrestations douteuses d'athlètes, ça peut poser un problème. Maintenant, mettons-nous dans la situation où on a un athlète qui est médaillé ou un athlète qui participe et qui se balade avec un drapeau Free Uyghur sur la piste d'athlétisme. Là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que au titre de la charte olympique, l'article 50, les athlètes n'ont pas le droit de prendre des positions politiques. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Les autorités chinoises risqueraient d'être assez froissées. Et pour avoir parlé avec certains comités olympiques nationaux, il y a un gros travail de prévention qui est fait vis-à-vis des athlètes afin qu'ils ne manifestent pas d'opinion politique ici caractérisée dans le cadre de ces Jeux olympiques en les sensibilisant au risque. Je trouve ça quand même un petit peu dommage, personnellement. On se rappelle des Jeux Olympiques de 68 à Mexico, où des athlètes avaient pu lever le poing sur la boîte olympique en manifestant tout ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, c'est des comportements qui seraient réprimés tant par le CIO et peut-être par les autorités chinoises. Donc on pourrait peut-être s'inquiéter de ce risque. Du moins, si j'étais un athlète, je partirais peut-être pas et notamment canadien, je partirais peut-être pas tranquille à Pékin.
Mais merci beaucoup, professeur David Pavot. Vous êtes professeur titulaire à la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport et vice-président de la Société québécoise de droit international de l'Université de Sherbrooke. Merci d'être venu ce matin pour nous parler du boycott diplomatique du Canada des Jeux olympiques de Pékin. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre travail.
Merci beaucoup.
Passez une très belle journée.